On attend que... Voilà, voilà, merci bien. On attend que tout le monde arrive. Et puis, moi, je m'appelle Bertrand. Il faut me respecter un peu, hein, je suis déjà grand-père, moi. OK. Ça va aller très vite. Deux parties ce soir. Une partie où je vais vous expliquer pourquoi c'est si important de préserver l'organe le plus important, le principal organe de notre corps, qui est le cerveau. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est si important de le préserver, parce que sans ça, on ne peut rien faire. Et j'ai besoin de la zapette pour tourner. Vous appelez ça la zapette ? Non, vous appelez ça comment, là ?
Télécommande.
Ça, d'accord. Chez nous aussi, on appelle ça une télécommande. Mais en plus court. En plus court, vous appelez ça comment ? Hein ?
La manette.
Ça marche ? Ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Donc, en première partie, on va faire, je vais vous montrer pourquoi c'est important de s'occuper de son cerveau. Et en deuxième partie, on va faire un peu des sketchs et des jeux. Et je vais vous donner un outil qui va peut-être vous permettre un jour de vous sauver la vie. C'est quelque chose de très important. Peu de gens comprennent ça, mais si on peut le comprendre, ça peut vous sauver la vie. OK ? Et ça, c'est en deuxième partie. Et là, ça va être, on va beaucoup bouger, vous allez voir. Mais je ne peux pas commencer si... Voilà, on peut se présenter un peu. Moi, je viens de France. Toi, tu viens de... Trois-Rivières. C'est pas très loin. Hein ? Et tu t'appelles ?
Gilles.
Gabriel. Jacob, Jacob, Ézéchiel. Et toi, tu t'appelles ?
Timothée.
Timothée, oui, oui. Ézéchiel, Nathan, Jacob, hein ? Étienne. Ah ben oui, Étienne, je t'ai vu hier. Naomi, Manon, Nicolas. Il faut parler doucement avec moi parce que... Et puis toi, Amélie, merci bien. On continue. Marc-Olivier, c'est ça ? Et à côté de toi, Marc-Olivier, Gabriel, Pierre-Émile, Zachary, Maxime. Je n'ai pas entendu. OK, Catherine, Anne. Après, c'est Sarah. Après, Jeanne. Hein? Maëlie. Ah, Maggie, c'est ça, excuse-moi. Hein? Laurie Jane. Oui, mettez le volume un peu fort, là. Esther. Comment? Sarah. Malissa. Marika. D'accord. Lise. Martin. Laurie. Jérémy. OK. Bingo. Alors, on commence. Vous êtes prêts ? Et moi, je voudrais que vous puissiez me regarder. Si vous avez des cellulaires, on les coupe. Et puis, ça y est, c'est fait. Et puis, on y va. Qu'est-ce qu'on voit là ? Vas-y, Jacob. Un rat, ouais, c'est plutôt une souris, d'accord, c'est un rat, ouais, d'accord. Et quel est le problème du rat là, ou de la souris là ? Attends, il y a du fromage. Est-ce que c'est normal qu'elle soit attirée par le fromage ? Mais tout à fait, parce que une souris mange du fromage et même elle a beaucoup de plaisir à manger du fromage. Le problème, c'est que le fromage, là, il a un problème. Il est emballé d'une manière un peu différente. C'est quoi ? Il y a un piège, il y a un piège. Donc, le produit, est-ce qu'il va faire plaisir ? Eh ben, le produit lui-même, le fromage, est-ce qu'il va faire plaisir ? Bien sûr. Le problème, c'est qu'il cache un piège. Mais la souris, elle a déjà vu que ses copines, peut-être ses copines, se sont fait prendre au piège. Et elle se dit, bon, moi, je vais être plus smart, plus intelligente que mes copines. Et je vais mettre, Étienne, un casque. Et elle pense que le casque va la protéger. Or, le casque ne va pas du tout la protéger. On sait que le casque, c'est comme un petit chapeau, là, mais le piège est tellement puissant que la souris va en mourir. Sauf que la souris, elle se pose une question. Qu'est-ce qu'elle se dit, la souris ? J'ai pas entendu. Elle se dit quoi ? Vas-y, quelqu'un ? Non, la souris, elle ne se dit pas qu'elle va mourir. Parce que si elle se dit qu'elle allait mourir, qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? À ce stade-là, elle pourrait partir. Qui c'est qui l'oblige à rester là ? C'est le fromage qui l'oblige ? C'est elle-même qui s'oblige. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose en elle-même qui l'attire vers ce fromage. Elle voudrait bien goûter ça. Elle se pose une seule question. J'en prends pas. J'en prends ou j'en prends pas. Et elle dit, bon, je risque de me faire piéger, donc je mets un casque. Et là, elle dit, oh là, est-ce que ça va suffire? J'en prends ou j'en prends pas? Moi, je vais vous dire, cette question, vous la posez, chacun et chacune de vous, vous la posez et vous allez la poser toute votre vie, non pas devant un morceau de fromage, on est plus intelligent qu'une souris, n'est-ce pas ? Mais il y a d'autres choses qui sont là devant nous, qu'on nous présente, nous pensons que ça va nous faire plaisir, et en fin de compte, il y a un piège derrière. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas que les jeunes, c'est aussi les adultes et les parents et les grands-pères et les grands-mères, on est tous tentés de prendre des choses et puis derrière, il y a un piège qui se referme. Alors, pour la souris, c'est un morceau de fromage, mais pour nous, ça peut être autre chose. Et ce dont on va parler ce soir, c'est on va parler des drogues, on va parler de produits, on va parler de... Mais pas seulement de l'alcool ou du shit ou des joints. On va parler aussi des jeux ou de l'Internet. On va parler aussi de la pornographie. On va parler de toutes ces choses qui, dans un sens, vont faire le même travail que le fromage fait avec la souris. Toutes ces choses vont nous attirer pour nous piéger. Et nous, on veut rester libres. Et moi, je voudrais vous dire, en fin de compte, la cible, c'est notre cerveau. Je vais vous en parler un petit peu. Alors, comment fonctionne notre cerveau ? Notre cerveau, je vais vous le montrer. Ça fonctionne comme un ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un ordinateur ? On écrit, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On télécharge quoi ? On télécharge les affaires qu'on aime, des logiciels. On fait quoi encore ? On sauvegarde des informations, on met de la musique, on regarde des vidéos. Voilà, écrire à des personnes, on fait un texte, on regarde un DVD, on prend des informations, on les met là. Moi, j'ai un ordinateur là, moi je suis étonné quoi. Parce que normalement, il me faudrait une remorque derrière ma voiture pour porter tous les dossiers qui sont juste dans cet appareil-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est, si on devait photocopier imprimer tous les dossiers qui sont là-dedans, mais ça serait une remorque, ça ne serait même pas possible. Vous voyez ce que je suis en train de dire ? Donc, on stocke des informations, on joue à des jeux vidéo. Ça va ? C'est vrai ? Oui ou non ? Évidemment. On écoute de la zik, nous on dit de la zik chez nous, de la musique évidemment, et on consulte des comptes bancaires. Bon, je suppose que, à moins qu'il y en ait un qui soit tellement riche que le compte bancaire déborde, là, non ? Il n'y a personne d'entre vous ? Non, pas encore. OK. Et on se promène sur Internet ? Ça vous arrive de vous promener sur Internet ? Évidemment. Vous êtes la génération qui a grandi avec Internet. Et ça vous arrive d'aller sur MSN ? Sur Skype ? Vous connaissez Skype ? Ça, c'est extraordinaire. Moi, je parle à mon fils qui est en Côte d'Ivoire, je parle à ma femme qui est en France, je parle dans le monde entier, on parle avec... Et ça ne coûte rien. Ça, c'est super. Et puis, on envoie des emails. Évidemment, je ne sais pas si vous faites beaucoup d'emails, mais on peut en faire. Moi, j'en fais, tout le monde en fait. Et des fois, c'est même pénible parce que c'est beaucoup de travail, en fin de compte. Il faut répondre à tout le monde. Et si on ne répond pas, qu'est-ce que ça fait ? Les gens ne sont pas contents. Bon, ce n'est pas grave. Et si vous deviez acheter un ordinateur, si vous deviez acheter un ordinateur, vous voudriez acheter un bon ordinateur, quelque chose qui marche bien. Qu'est-ce que vous demanderiez au vendeur ? Hein ? Quelque chose de rapide pour télécharger rapidement. On n'a pas le temps d'attendre. Quoi d'autre ? Si vous voulez regarder des vidéos, vous voulez quoi ? Donc, il faut quoi ? Ah ben, un bel écran, un écran... Non, mais un écran qui soit vraiment... un écran qui soit top, quoi. Hein ? Mais il nous faut quelque chose à l'intérieur. Ben, ouais, de la mémoire. Suffisamment de mémoire, parce que les films prennent beaucoup de place, surtout les vidéos. Mais maintenant, tu peux prendre... Il y a des petits disques durs externes qui ont une capacité énorme. Mais il faut quoi encore ? Des batteries, une carte graphique. Une carte graphique, n'est-ce pas, performante. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Alors, beaucoup de mémoire, on l'a dit. Quelque chose qui nous fasse, de la RAM qui nous fasse tourner les logiciels très rapidement. Il nous faut quelque chose sur lequel on puisse avoir plusieurs logiciels en même temps et une bonne qualité d'image, une carte graphique. Une carte graphique, attendez, je vais... Ok, c'est pas grave. Il nous faut une carte graphique, bien sûr, et puis on voudrait une bonne batterie pour qu'il puisse marcher sans toujours le recharger, évidemment. Et puis, alors, évidemment, on veut quelque chose... qui puisse être, on puisse rajouter certaines, comment on appelle ça, du hardware pour pouvoir améliorer l'ordinateur. Ça, c'est le principal, un bon antivirus. Pourquoi ? Qu'est-ce qui peut arriver de pire à un ordinateur ? C'est exactement ça, un virus. OK ? Donc, on a un ordinateur, on a payé cher pour l'ordinateur. Ça coûte cher, un ordinateur. On le soigne, cet ordinateur. Et je vous rappelle, je suis en train de comparer notre cerveau à un ordinateur. Un cerveau, c'est 100 000 cellulaires qui fonctionnent en même temps. Et donc, qu'est-ce qui peut arriver de pire pour un ordinateur ? C'est qu'il y a un virus. Regardez, on a un ordinateur. On a Internet. Et là, caché là, il y a un virus qui va être envoyé d'Internet. Tout à coup, on ouvre nos mails, on télécharge. C'est pour ça que maintenant, ils disent, est-ce que vous allez télécharger un logiciel depuis Internet ? La source n'est pas sûre. Est-ce que vous voulez vraiment l'enregistrer, le télécharger ? Et si vous dites oui ou si vous ne faites pas attention, tout à coup, vous téléchargez dans l'ordinateur, vous téléchargez ce... logiciel, et en fait, c'est pas un logiciel, c'est un virus. Celui-là, c'est un vieux, il s'appelle I Love You. Eh ben, merci pour l'amour qu'il nous porte, hein. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se cacher dans l'ordinateur. Et ça, c'est la même chose que la drogue. Vous prenez quelque chose, un produit, et le produit va se cacher dans votre cerveau quelque part. Attends, j'ai pas fini. Il va se cacher là, et il va rester là. Et peut-être, il n'y a rien qui se passe. Ou du moins, c'est cool, quoi. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi s'en faire? Et puis même, ça fait plaisir. Et je ne suis même pas malade. Sauf que, la drogue que vous avez prise, c'est comme le virus, il s'installe là, et puis tout va bien. Semble-t-il que tout va bien. Tout d'un coup, vous travaillez sur l'ordinateur, vous êtes là, et puis vous ouvrez un fichier, un deuxième fichier, un troisième fichier, et puis c'est le virus qui est dormant, qui dort dans les fichiers, dans les logiciels, là, tout à coup, il explose quand on exécute un programme, et il y a tout qui explose, là. Et ça, c'est exactement ce qui se passe sur un ordinateur, mais c'est exactement aussi ce qui se passe quand on prend un produit et le cerveau n'est pas capable de... Allez-y, n'est pas capable de le... Hein ? J'ai pas entendu. De le supporter. Et comme l'ordinateur n'est pas capable de le supporter, mais il l'intègre, et le virus va aller partout, et la drogue dans notre cerveau va mettre le bazar, vous comprenez ça ? Ou c'est un mot trop français, ça ? C'est trop français ? Ça va ? Va mettre la panique, va mettre... Hein ? Vas-y. Ça va buzzer, hein, c'est ça que tu dis ? Là, on comprend ça ? OK. Dans le cerveau, de telle manière que toutes les connexions dans le cerveau vont être dérangées. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'ordinateur est infecté ? Alors, l'ordinateur, il y a le virus qui est là, et maintenant, il s'allume une fois sur cinq. Vous n'arrivez, ça ne marche pas. Et là, vous commencez à vous énerver, quoi. Attends, il ne s'allume pas cet ordinateur. Vous tapez, vous redémarrez. Ça, c'est un peu comme le cerveau. Il y a des choses qu'on ne retient plus. On n'arrive plus à penser comme il faut. On a l'impression qu'on est embrumé quelque part. Il bloque dès qu'on ouvre deux programmes en même temps. Vous essayez de réfléchir à des problèmes, puis ça ne marche plus. Pourquoi ? Parce que vous avez fait rentrer un virus dans le cerveau. Il y a certains fichiers qui sont abîmés. Vous savez que dans le cerveau, il y a des millions et des millions de connexions. Et les connexions se font tous les jours, tout le temps. Il y a de nouvelles connexions. Et là, à cause de ce produit que vous avez récupéré, les connexions ne se font plus. Et moi, je connais, à côté de chez moi, il y a un hôpital psychiatrique. Vous savez ce que c'est qu'un hôpital psychiatrique ? C'est pour les dérangés mentaux, n'est-ce pas ? Avant, on appelait ça comment ? Pour les fous, d'accord ? Et ils ont votre âge. Bah, vers 14 à 18, 20, 25 ans. Et on voit des jeunes tout à fait physiquement normaux et tout, ils se baladent. Mais il leur manque une case. C'est quoi ? C'est simplement que les produits qu'ils ont pris, a déformé ce cerveau, a déformé les connexions. C'est comme ici, l'ordinateur, des fichiers qui sont abîmés. Tu lui poses une question, il ne connecte plus. Devient anormalement lent. L'ordinateur, là, dit, comment vous dites-vous ? Oh là là, qu'est-ce ? Nous, chez nous, en France, on dit, qu'est-ce qui rame ? Au lieu d'avoir un moteur de 100 chevaux derrière l'ordinateur, là, on est maintenant à la rame, quoi. Qu'est-ce qui rame, quoi ? Il n'avance pas, il est lent. On a l'impression qu'il faut attendre des heures pour que les choses se passent. Ça ne vous est pas arrivé déjà, ça ? OK. Eh bien, et là, on s'aperçoit que dans notre cerveau, quand on a ingurgité un produit, et des drogues notamment, eh bien, on n'arrive plus à réfléchir aussi vite qu'on le faisait avant. Et puis, tout à coup, même, on pense à l'envers. On pense différemment que les autres. Et on a l'impression que, pourtant, on a l'impression que c'est nous qui avons la vérité et que les autres se trompent. Et puis, tout à coup, ils se refusent à se connecter à Internet. Ceux qui prennent de la drogue, pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont plus d'amis. Les seuls amis qu'ils ont, c'est lesquels ? C'est ceux avec lesquels ils prennent de la drogue. Okay. Alors, ils se déchargent tout de suite. Nous, ce qu'on aime bien dans l'ordinateur, quand mon ordinateur était neuf, j'avais presque 6 heures d'autonomie sur mon ordinateur. Maintenant, là, ça fait un peu des années que je l'ai et la batterie est devenue faible. Mais c'est ce qu'on veut. On veut des ordinateurs avec performance, c'est-à-dire une batterie performante. Et là, quand on ingurgite une drogue, quand on prend de la drogue, c'est assez étonnant parce qu'on est fatigué. On n'arrive plus à avoir de la force, on n'arrive plus à faire des projets. Peut-être on fait des projets, mais on n'arrive plus à les accomplir. Voilà. Donc, je suis en train de vous dire que l'ordinateur, c'est comme votre cerveau. Vous pouvez récupérer, et ça, on a horreur de récupérer des virus pour l'ordinateur. Eh bien, les virus pour votre ordinateur, c'est exactement de la même manière que la drogue va avoir pour votre cerveau. Et puis, tout à coup, vous êtes tellement malade que vous ne pouvez rien faire, même plus aller à l'école, ni plus faire d'études. Généralement, avec la drogue, comment les parents savent qu'on peut prendre de la drogue, l'enfant prend de la drogue ? Vas-y, Jacob. Ah, il peut prendre des prises de sang, mais sans même aller à l'hôpital. Comment ils peuvent savoir ça ? Vas-y. Le caractère ? Les yeux rouges ? Mais il ne démarre plus, c'est-à-dire qu'à l'école, les résultats, c'est comme ça. Et ça, c'est typique. Alors, il peut y avoir d'autres raisons à ça. Mais ça, c'est typique. Mais vous avez tous raison. Hein. Là, on peut voir ça avec la prise de sang, les yeux, le caractère qui change, pas mal de choses, en fin de compte. Hein. Alors, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le cerveau, eh bien, c'est vraiment le siège de vos émotions, de vos sensations, de vos décisions, de vos actions. Avec le cerveau, on peut tout faire. Quelqu'un veut le lire ? Vas-y. Voilà, t'as pris quelque chose ce soir, toi ? Allez, vas-y. Ok, marcher, se tenir debout. Quelqu'un d'autre ? Vas-y. Aimer, mais oui. Avec un cerveau en bon état, on est capable d'aimer quelqu'un d'autre. On est capable d'être en colère. Est-ce que c'est bien la colère ? Si, c'est bien. C'est bien la colère. Mais bien sûr que c'est bien la colère. Heureusement qu'on se met en colère. Des fois, c'est bien d'être en colère. Parce qu'on ne laisse pas les autres faire n'importe quoi vis-à-vis de soi. Parfois, c'est bien parce qu'on est en colère. On est en colère parce que ça me met en colère quand je vois un jeune homme qui boit de l'alcool et qui prend la moto ou qui prend la voiture. Ça me met en colère. Pourquoi ça me met en colère ? Pas pour lui. Pour qui ? Pour le petit garçon ou la petite fille qui va traverser et qui va renverser plus tard. Vous voyez ce que je suis en train de dire ? Ça arrive trop souvent. Donc il y a des choses qui nous mettent en colère et c'est bon. Moi, je ne dis pas, mais qu'est-ce qui n'est pas bon dans la colère ? Si je dis que la colère est bonne, qu'est-ce qui n'est pas bon dans la colère ? Qu'est-ce qu'il était en train de dire, Timothée ? Vas-y. C'est la réaction. Bravo ! C'est la réaction à la colère. Et c'est ça. Je peux être en colère, mais je n'ai pas besoin d'aller le taper, ou je n'ai pas besoin d'aller l'insulter, je n'ai pas besoin d'aller lui rendre la même chose, quoi. D'accord. Mais, et avoir peur, c'est bon, ça ? Bon, il n'y a que les filles qui ont peur. Si, c'est bon. T'es d'accord avec moi, non ? Timothée dit oui, je suis d'accord. Et pourquoi c'est bon d'avoir peur ? Donc, les filles, je vous rassure, hein, nous aussi, les garçons, on a peur, parfois. On ne veut pas le dire, mais on a peur. Pourquoi Vous êtes avec moi là? Oh, psst, psst, psst. Comment tu t'appelles? Hein? Émile. Émile, c'est vrai? Ok. D'accord, Pierre-Émile, quoi. Et Émile, pourquoi avoir peur, ça peut être bon? Oui. Se protéger de quoi, vas-y? Les quoi? Ouais. Tu fais du skate? Tu fais du vélo? Ok. À un moment donné, tu as peur en vélo? Pas toujours. Tu fais pas de moto non plus encore? Pas encore. Mais vous savez quoi? Si tu fais n'importe quoi en vélo, si tu n'as jamais peur en vélo. Les autres jours, j'ai vu à Montréal un gars qui est en vélo. Non, ouais. Il passait sur les trottoirs en vélo, à toute vitesse, quoi. Et il traversait chaque rue comme ça, sans regarder ni rien du tout, quoi. Il n'avait peur de rien. Le gars, il était quoi? Il était. Moi, j'ai dit, il est malade, ce type. Il y a une voiture qui va lui rentrer dedans. Il traversait toutes les rues comme ça, pom, 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 pom. Et il était sur le trottoir, il y avait beaucoup de gens. Et il roulait comme un fou, quoi. Il n'avait peur de rien. Il avait quel sentiment? Qu'est-ce qu'il pensait lui-même, de lui-même? Attends, Timothée. Derrière. Qu'est-ce qu'il pensait de lui-même? Il pensait, je suis invincible. Personne ne peut me faire quelque chose. Lui n'avait pas peur. Moi, je vous dis, si vous n'avez jamais peur, vous risquez d'avoir des problèmes. Un alpiniste, quelqu'un qui va en montagne, qui n'a jamais peur, la montagne va le tuer. Un marin, la mer, s'il n'a pas peur de la mer va le tuer. Si un automobiliste n'a pas peur de la vitesse va le tuer, ainsi de suite. Vous comprenez ce que je veux dire? Avoir peur, c'est une qualité. Et où est-ce que ça se passe? Où est-ce que ça se passe, Martin? T'es là? T'es avec moi, là? Où est-ce que ça se passe? Oui, d'avoir peur? Dans le cerveau. C'est là que ça se passe. Ok. Regardez, entrez en relation. Un jour, vous allez aimer les garçons, vous allez aimer une fille, et les filles, vous allez aimer un garçon. Et c'est possible parce que le cerveau rend cela possible. Si vous abîmez votre cerveau, ça sera difficile d'être en relation, dans une bonne relation avec quelqu'un d'autre. Enregistrer des souvenirs, ça c'est la mémoire. Imaginer, concevoir, créer, quand vous voulez faire quelque chose, c'est le cerveau qui le fait. Et puis, quand vous avez faim ou soif, simplement, vous avez froid ou vous avez chaud, où est-ce que ça se passe? On a l'impression que c'est le corps là. Non, c'est le cerveau qui vous dit que vous avez froid et qu'il faut maintenant réfléchir comment vous pouvez vous réchauffer. C'est le cerveau qui vous dit cela. Ok. Apprendre, développer des nouvelles capacités, éprouver du plaisir, se projeter dans l'avenir. Hein, Émile, tu es avec moi? Ok. Eh bien, toutes ces choses-là, apprendre à jouer un instrument, toutes ces choses-là, c'est le cerveau qui nous permet de le faire. Ok. Je vais vous montrer quelque chose. Dans le cerveau, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est combien de téléphones portable, combien de cellulaires en même temps? 100 000 qui fonctionnent en même temps. Ça, je pense, c'est un minimum, quoi. C'est énorme. Et dans votre cerveau, vous êtes fait, chacun d'entre vous, vous êtes des personnes uniques. Dieu vous a fait de façon extraordinaire d'une façon admirable. Et vous pouvez le lire dans un psaume qui s'appelle le psaume 139. Il dit, le gars qui écrit, il dit, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as fait d'une façon extraordinaire. Je vais vous montrer une petite partie de cette chose extraordinaire. Alors, dans le cerveau, il y a beaucoup de programmes. C'est comme dans l'ordinateur, énormément de programmes. Nous, on ne fait que utiliser l'ordinateur, vous comprenez? Peut-être d'entre vous, vous avez des... Il y en a qui connaissent comment ça marche. Moi, je ne connais pas comment ça marche. Je ne sais pas faire comme un logiciel. Je ne sais pas faire un programme. Non, je peux utiliser, et encore, je n'utilise pas à toute sa valeur. Mais regardez, ici, on va parler de notre cerveau. Il y a un programme de sensation de plaisir. Voilà, j'aime manger une crème glacée. Ou bien de déplaisir. Oh, la salade, là, j'aime pas trop. OK. Ou bien j'ai faim, ou bien j'ai soif, j'ai froid, etc., etc. D'accord ? Donc, on va dire que ça, c'est un programme. Et puis là, il y a un autre programme, c'est la coordination des mouvements. Regardez, je vais étendre mon bras. Bras, étends-toi. M'obéis pas. Bras, étends-toi. Il m'obéit pas. Bras, étends-toi. Oh ! Ça marche. Est-ce que c'est la voix qui fait que le bras a obéi ou pas ? Non, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Je vais maintenant dire à tous mes doigts de taper sur le clavier. Je n'ai même pas besoin de regarder le clavier. Ma mémoire a retenu où est-ce que mes doigts doivent se mettre. Et c'est ce qu'on va appeler la coordination des mouvements. C'est extraordinaire. Personne ne peut faire une machine comme la nôtre. OK. Une autre, la mémoire. Ah, la mémoire, c'est, on ne la voit pas. On sait qu'on a de la mémoire parce qu'on peut retenir de certaines choses. Et puis, là, on a un autre programme, et ce programme, il se situe à l'avant de la tête, il s'appelle le cortex. Il s'appelle, c'est le poste de commandement du cerveau. C'est là où les décisions se prennent. Là, on réfléchit, on anticipe. Anticiper, ça veut dire quoi ? Vas-y. Prévoir, penser à l'avance. Planifier, décider, voilà. Et puis maintenant, il y a plein de connexions qui se mettent partout. Alors l'information est donnée ici. Après l'information, elle va aller, excusez-moi, l'information, elle va aller dans la mémoire. Maintenant, parlons un peu de la mémoire. La mémoire, c'est comme si vous aviez une page toute blanche qui est divisée en deux. S'il vous plaît, les deux gars là, Émile. Moi, faut me respecter, d'accord ? Donc, écoute-moi, hein, ou bien fais semblant, comme tu veux. Alors, la mémoire, c'est une grande page divisée en deux. Regardez maintenant. D'un côté, il y a tous les souvenirs de plaisir que j'ai pu avoir. Et puis, de l'autre côté, de la souffrance. Bon, chacun d'entre nous, on a eu du plaisir, mais chacun d'entre nous, on a eu aussi notre part de souffrance. Et de douleur. Certains plus que d'autres. Regardez maintenant. Téléphoner à mon meilleur ami, c'est du plaisir. Et manger des épinards, la souffrance. Regarder un match de foot à la télé, ça c'est du plaisir. Hein, les gars, ils sont là. Apprendre une langue étrangère, oh là là, ça c'est du boulot quoi. Hein, c'est de la souffrance. Jouer de la guitare, ça peut être du plaisir. Nettoyer la voiture, c'est la souffrance, parce que c'est papa qui le demande. Hein ? Manger une pizza, on met de quel côté ? Plaisir à la relation avec papa. Ça dépend les jours, hein ? Ça dépend les jours. Parfois, on a marqué c'est de la souffrance. Bon. Alors, et là, faire une grasse matinée, c'est beaucoup de plaisir. Pouvoir dormir le matin, n'est-ce pas ? Alors, vous voyez, et là, on va en commettre un autre, et les cours de maths du lundi matin. Ben oui. Hein ? Du vendredi soir. OK, regardez bien maintenant. Je vais vous poser la question, comment est-ce que ces fichiers-là sont classés dans notre mémoire ? Pas toujours Jacob. Comment c'est classé dans notre mémoire, mademoiselle derrière là ? Qui vous voulez ? Est-ce que c'est classé par ancienneté ? Les plus anciens sont en bas, les plus récents sont en haut ? Non, pas du tout. C'est classé comment ? Par intensité. Ça veut dire par Si ça fait le plus de plaisir, c'est en haut, c'est le top. Mais si ça fait le plus de souffrance, c'est aussi le top. C'est aussi au-dessus, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas le top, mais c'est au-dessus. OK, regardez maintenant. On a parlé de la mémoire. Je voulais juste vous expliquer ça, on va y revenir. Regardez maintenant, Kevin. Ça, c'est mon ami Kevin. Il fait du skateboard, il tombe et se fait mal. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans son cerveau? D'abord, il a mal au genou. Et qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Eh bien, regardons. Vous vous rappelez, on avait tout ça là, et beaucoup plus, mais là, moi, j'ai voulu simplifier. Donc, il y a beaucoup plus de programmes, mais en simplifiant, le programme là qui lui donne la sensation de plaisir ou de souffrance, comme il a eu une grosse bosse au genou et il s'est arraché le pantalon et ça saigne, l'information, c'est quoi? J'ai mal! Et l'information va passer où? À la mémoire. Pof! Et à la mémoire, ça va être de quel côté de la mémoire? Souffrance! Et là, comme ça va être souffrance. Et ça va être gravé dans la mémoire. Après, la mémoire, elle va retenir que les deux pieds, si le skate est là, les deux pieds à l'arrière du skate, oh, ça fait tomber, on a mal et il y a de la douleur. Et donc, la mémoire va donner l'information à l'avant de la tête, là, à l'avant du cerveau, c'est donc le cortex, le poste de commandement du cerveau, c'est là où tout se décide. Et là, la machine se met en marche, l'ordinateur se met en marche et va essayer de mouliner pour voir comment faire pour rester en équilibre sur le skate. Comment est-ce que je peux faire? Parce que j'ai envie de faire du skate, mais je n'ai pas envie de retomber. Il faut que je trouve donc une nouvelle solution, une nouvelle position. Et tout à coup, il dit, ça y est, j'ai trouvé. Et l'idée est là. Et il dit, si je décale le pied gauche vers l'avant du skate, je peux être en équilibre. Et puis, il va essayer. Il dit, ça y est, je ne tombe plus, je vais bien. OK? C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, on prend une nouvelle situation. Kevin, le même. Il dit, je me fais larguer par ma copine. Vous comprenez le mot? Ouais. Ça fait du bien ou ça fait mal? Ça fait très mal. Très mal. Moi, je suis passé par là, ça fait très mal. Et on s'en souvient combien de temps? Toute la vie. Toute la vie. OK? Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Regardez. Alors, on a toujours la même chose. Sauf que, ici, là, ça ne sera plus la coordination des mouvements, ça sera autre chose, évidemment. Mais quand Kevin, qui aimait bien cette fille quand même, mais cette fille dit, non, moi, je ne t'aime plus, et ça ne m'intéresse plus, elle le largue, lui, il dit, j'ai mal. Et il a très mal. L'information va dans la mémoire. Et ça reste gravé dans la mémoire. Et l'information, c'est, oh là là, les autres peuvent me trahir. Et la trahison, c'est pas facile. Ça fait souffrir. OK? On a tous connu ça, je pense. Hein? Plus ou moins. Mais bon. Et donc là, c'est aussi gravé dans la mémoire. Et tout à coup, l'information va passer devant. Pof! Le poste de commandement, le cortex, et là, on dit, où est-ce que je vais trouver du plaisir pour rétablir l'équilibre? Parce que quand on a mal, surtout quand on s'est fait, on a pris un râteau, ça c'est une expression très française, vous avez ça aussi en Québec? Prendre un râteau? Non? Je vous apprends ça. Chut, on ne le dit pas à personne. D'accord? C'est juste entre nous. Hein. Prendre un râteau en France, Vous savez ce que c'est qu'un râteau, non? Pour ramasser les feuilles. Mais prendre un râteau, ça veut dire se faire larguer par sa copine ou son copain. Oh là là! Avec Émilie, là, j'ai pris un râteau. Ça veut dire que je me suis... Elle m'a planté, quoi. Ouais, bon, ça reste en tout de moi. Bon. Où est-ce que on va trouver... Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver du... Mais ça fait mal. Donc, notre cerveau est en déséquilibre, là. Il est en déséquilibre. Et on ne peut pas vivre comme ça très longtemps. Et comment est-ce qu'on va le remettre en équilibre pour avoir du plaisir, notre cerveau? Alors, il y a une réflexion, là. Il réfléchit, et tout à coup, il dit « Ah, ça y est, j'ai trouvé. » Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais entrer en relation, écoutez bien, quelqu'un veut le lire, à un produit plutôt qu'à une personne. Et quel produit c'est, ça? C'est de la drogue. Parce que on va lui dire, toi, tu te sens pas bien, viens, prends un peu de whisky, là, ou bien prends un joint, tu vas voir, tu te sentiras mieux. Est-ce que effectivement il va se sentir mieux? Je regrette de vous dire qu'il va se sentir mieux. C'est ça le truc. La drogue, ça donne un certain plaisir. La drogue, ça va lui faire sentir mieux. Est-ce que vous m'entendez là? Pourquoi vous pensez que les jeunes et les gens prennent de la drogue? Parce que c'est mauvais? Donc, c'est parce que c'est bon? Est-ce que c'est bon la drogue? Si, c'est bon. Bien sûr que c'est bon. Sinon, les gens n'en prendraient pas. Je vais bien expliquer ça. Tu vois, la drogue, et je vais le montrer tout à l'heure, ça va modifier, c'est un produit qui vient modifier le cerveau et qui vient faire que la difficulté que tu as, elle semble disparaître. Est-ce qu'elle a disparu, la difficulté? Non, elle est toujours là, mais elle semble disparaître. Regardez maintenant, regardez bien. Il n'a plus mal. Avec la drogue, il a anesthésié, un autre mot pour anesthésier, endormi ses émotions douloureuses. Il les a simplement endormies. C'est un médicament, la drogue. C'est une potion magique. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une potion magique qui va avoir de l'effet sur vous, qui va endormir les émotions douloureuses. Et maintenant qu'il les a endormis, est-ce que Kevin est bien? Non, il n'est pas bien. Mais il se sent bien. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'effet termine. Jusqu'à ce que l'effet se... Est-ce que vous comprenez ça? On prend un produit, le produit fait de l'effet sur le cerveau, on pense qu'on va de nouveau bien. On se sent bien. Est-ce que ça veut dire qu'on va bien? Non. Et les émotions douloureuses, est-ce qu'elles sont parties pour toujours? Elles sont parties juste pour le moment où le produit fait son effet. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que le cerveau a enregistré. Écoutez-moi, je sais que c'est beaucoup d'informations, mais le cerveau, il a enregistré que ce produit, il a la capacité d'enlever l'émotion douloureuse. Et quand vous allez être mal la prochaine fois, votre cerveau, votre mémoire va vous rappeler « Oh, tu sais, tu pourrais reprendre un petit truc là. » Et puis, hop là, maintenant c'est un enchaînement. Et c'est comme ça qu'on devient dépendant ou on dit chez nous accro, accoutumé accro. Alors voilà, moi je suis en train de vous dire ça. Faites très attention, votre cerveau, c'est ce que Dieu vous a donné peut-être de plus précieux et vous devez le protéger. C'est une mécanique délicate et complexe, il faut le protéger. Sachez que les connexions à l'intérieur du cerveau se construisent en grandissant avec les expériences, l'éducation, les activités que vous faites à l'école ou en dehors de l'école. C'est toute la vie que ça se construit. Ce n'est pas juste quand on est adolescent ou jeune, tout ça. Le cerveau, c'est ce qu'on possède de plus précieux. Sans un cerveau qui fonctionne, on ne peut plus aimer, on ne peut plus créer, on ne peut plus apprendre, on ne peut plus être libre, on ne peut plus évoluer. Qu'est-ce que vous cherchez pour votre vie? Je vous pose la question, qu'est-ce que vous préférez? Ça? Ou ça? N'est-ce pas? Vous voulez une feuille de chou? Prenez de la drogue. Ça marche. Ça marche. Prenez de la drogue. Si vous voulez une feuille de chou, comme cerveau, et vous allez vous balader comme ça dans les hôpitaux psychiatriques, les études vont terminer, vous ne pourrez pas être capable d'aimer, vous ne pourrez pas être capable de rentrer en relation. Tout ce qu'on a vu là, si vous voulez ça, si c'est ça que vous choisissez, de toute façon, personne ne peut vous empêcher d'en prendre, parce que vous allez à l'école, vous ne tenez pas papa et maman par la main pour aller à l'école. Il y a bien des gens qui rôdent autour de vous. Et on va vous proposer, ne vous en faites pas, un jour ou l'autre, on vous proposera de la drogue. Un jour ou l'autre, on va vous en proposer, je peux vous l'assurer. Je vous donne $100 si vous me dites que dans 10 ans, on ne m'en a jamais proposé. C'est sûr, c'est sûr. Vous en souviendrez? J'ai parié $100. Dans 10 ans, hein? Ok. Mais je suis très sérieux là. Je suis très sérieux. On va vous le proposer et tout à l'heure on va faire un exercice qui peut vous sauver la vie, comme je disais tout à l'heure. Parce que je voudrais vous montrer comment est-ce qu'on peut dire non à ceux qui veulent nous influencer. Alors. Regardez, c'est une modification de la conscience. Hein. Donc, la drogue est un intrus. C'est ce virus qui vient se cacher là. Il va se placer dans toutes les connexions du cerveau, va déformer les informations et va mettre le bazar. Comment tu disais, Sarah? Je n'ai pas entendu. Il va buzzer nos émotions et nos capacités. Hein. La drogue va modifier la sensation de froid et de chaud, de faim, de désir, les inhibitions, les intuitions. Tous les signaux que notre corps nous envoie pour survivre, eh bien, il va mettre le bazar là-dedans, buzzer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que prendre de la drogue, même une seule fois, c'est comme prendre un lance-pierre. Vous connaissez les lance-pierres? Et prendre un magnifique... lustre en cristal, comme ça, là, et on tire dessus. Le cerveau est très fragile et il faut absolument que vous puissiez le protéger. Même vous ne savez pas comment vous allez réagir. Moi, j'ai été appelé auprès d'une jeune fille qui était dans le coma 2 heures après avoir fumé un joint. En fait, elle était avec ses copains et ses copines. Ils se passaient le chichon, là, le joint, là. Ils se le passaient les uns les autres. À certains garçons et à certaines filles, ça ne fait rien. Elles, pouf, 2 heures dans le coma. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas égaux devant la drogue. On ne meurt pas du cannabis. On ne meurt pas du cannabis. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le cannabis? Ou d'autres drogues, l'alcool, la même chose. On détruit l'équilibre chimique du cerveau et l'équilibre de nos émotions. Comment est-ce qu'on devient accro? C'est une question de plaisir, je vais vous le montrer. Quand on mange une crème glacée, quand on joue au tennis ou on fait du sport ou on fait du patin à glace, ou comme si quelqu'un nous dit qu'il nous aime, on est très content, ça nous fait plaisir. Je vais vous montrer comment ça se passe. C'est schématique ça. Hein, je vais vous montrer comment ça se passe dans le cerveau. Qu'est-ce qui c'est que cette... Voilà, oh, j'aime beaucoup. manger une glace, ou j'aime beaucoup jouer, faire du sport. J'aime beaucoup quand on me dit quand même. Tout le monde dit ça. OK. Tout à l'heure, moi, j'ai parlé à ma femme sur Skype, elle m'a dit, n'oublie pas, je t'aime. Ah, d'accord ? Ça m'a fait beaucoup de plaisir, évidemment. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau ? Comment ça marche dans le cerveau ? Ça marche comme ceci. Imaginez le cerveau et imaginez des produits chimiques, des substances à plaisir. Regardez, ça c'est ce qu'on appelle la dopamine, l'adrénaline, les endorphines, mais il y a encore d'autres, beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Je n'ai pas tout mis ici. Et quand on vous dit, qu'on vous aime, qu'est-ce qui se passe ? Regardez, ça fait ça là. Il y a... attendez, comment ça marche, hein ? Voilà, attendez, ça c'est un peu différent. Alors, la dopamine, ça nous donne vraiment beaucoup de joie. L'adrénaline, ça nous stimule. Et les endorphines, ça nous donne du plaisir. Regardez ce qui se passe. C'est que quand il y a quand on mange une crème glacée ou qu'on nous dit qu'on nous aime, dans notre cerveau, ça libère des produits chimiques, comme ces produits chimiques, et ça nous donne du plaisir. Et c'est exactement comment ça se passe. Et le cerveau est capable d'accepter ce genre de plaisir. Après, le cerveau revient à l'état neutre et on est bien content. C'est tout, on est bien content. Regardez. La perspective de plaisir nous donne la motivation pour faire les gestes nécessaires à la survie. Si on n'avait pas de plaisir à manger, on ne mangerait pas, on aurait faim. Et si on n'avait pas de plaisir, s'il n'y avait pas de plaisir à faire l'acte sexuel, il n'y aurait pas d'enfants. Voilà, les hommes et les femmes s'aiment, et dans le cadre du mariage, on a des relations sexuelles aussi pour avoir des enfants. Regardez, lorsqu'on fume des cigarettes, lorsqu'on boit de l'alcool, lorsqu'on consomme du cannabis, ou quand on surfe sur Internet dans des sites qui sont, Émile, tu comprends ce que je suis en train de dire ? Sur des sites là qui sont interdits parce que ça va nous mettre toutes sortes d'idées dans la tête, ou bien quand on va jouer à l'argent, comme le poker, ou bien des jeux à gratter, vous savez comment c'est les jeux à gratter là ? Vous en avez ici ? Chez nous, c'est le tac au tac, ou bien je ne sais pas comment vous avez. Voilà. Des jeux à gratter pour gagner de l'argent rapidement, toutes ces sortes de plaisirs, qu'est-ce que ça fait ? C'est la même chose que tout à l'heure, ça produit ça libère des produits chimiques de façon immense, immense, par rapport à la capacité du cerveau. Et le cerveau ne peut pas supporter ça. Et donc, pendant un moment, ça fait un grand plaisir. Et ça monte très haut, le plaisir. Et tout le monde veut beaucoup de plaisir. Sauf que, quand les effets ne sont plus là, aussi haut qu'on est monté, et ça monte beaucoup de plaisir. Plus que le cerveau, c'est comme si vous prenez votre moto et vous mettez la première et vous ne passez pas en seconde. Le moteur crie, crie, crie. Et puis, en fin de compte, il est prêt à exploser. C'est exactement comme ça. Parce que le moteur ne supporte pas le nombre de tours que vous lui demandez. Et là, vous donnez à votre cerveau, par des produits, vous donnez à votre cerveau, vous demandez à votre cerveau quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Et puis, alors vous avez beaucoup de plaisir, c'est vrai, mais autant que vous avez eu du plaisir, autant vous allez redescendre bas. Le problème là-dedans, c'est quoi ? Que le plaisir, là, il a été gravé dans la mémoire. Et c'est là que c'est après, c'est comme ça qu'on devient accro, parce que après, on est toujours en train de chercher ce plaisir qu'on a connu une fois. C'est pour ça que c'est dangereux. Alors, la première chose, la drogue, oui, ça donne du plaisir, mais c'est très dangereux. C'est le vous vous rappelez la souris, le fromage? Ça fait plaisir, le fromage. Oui. Mais qu'est-ce qu'on ne dit pas derrière? C'est que ça peut te tuer, quoi. Par le piège. On ne parle pas du piège, on ne parle que du fromage. Alors que la drogue, on ne parle que de la bonne chose. Et on ne parle pas du piège qui va se refermer sur nous. Et vous avez beau mettre un casque, vous avez beau mettre des choses comme ça, ça ne va pas fonctionner. Dans la mémoire maintenant, regardez. Si c'est de l'alcool que vous prenez, l'alcool va prendre la place de votre ami. L'alcool va maintenant... Ça vous donne tellement de plaisir que votre ami, vous n'allez même plus lui téléphoner, même plus le regarder. Parce que regardez, l'alcool fait plaisir 100 fois plus que votre... pas 100 fois plus, 5 fois plus, c'est ça, que votre ami. Donc votre ami, bon, s'il est là, tant mieux, mais vous êtes maintenant ami avec la bouteille. C'est ça que ça se passe. Et vous n'allez penser qu'à ça. Pourquoi ? Parce que le cerveau vous rappelle que là, l'alcool vous a donné beaucoup de plaisir. Mais c'est l'alcool, c'est aussi la porno, c'est aussi les jeux d'argent, les jeux vidéo, tout ce qui va vous obliger de rester là. Et ça va vous lier et vous serez simplement obligé de le faire. C'est ce qu'on appelle l'esclavage ou la dépendance. Écoutez, moi, j'ai vu une dame, elle avait plusieurs enfants, peut-être elle s'ennuyait, elle a commencé à jouer sur l'ordinateur, aux cartes, là, vous savez. Vous connaissez ça? Elle jouait en ligne. Vous savez combien de temps elle jouait en ligne? 10h le matin, 2h, de 10h jusqu'à 2h du matin, tous les jours. Elle ne faisait plus à manger, elle ne faisait plus, elle s'occupait plus des enfants, faisait plus le ménage, rien. Elle était là. Son mari était obligé d'aller amener le café, le pain, le petit déjeuner et préparer à manger à midi. Et puis elle allait, elle, juste aux toilettes, hop là, sur l'ordinateur. C'est tout ce qu'elle faisait. Pourquoi? Parce que ça lui donnait tellement de plaisir que même la famille, ne l'intéressait plus. OK. On va... Ah non, je ne vais pas passer par là. Je croyais que c'était... C'est trop long. On ne va pas aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que je dois vous montrer encore? Parce que ça sera trop long et je vais vous fatiguer là. Comment est-ce que je peux faire? Il y a quelqu'un derrière? Non. Ça ne fait rien. On va vite le faire. Tout ça, c'est deux prochaines diapositives. Ça, je voudrais vous expliquer, mais je ne vais pas vous montrer de diapositive. Je vais le faire comme ça. Vous allez traverser, et certains d'entre vous êtes dans une période qu'on appelle l'adolescence. C'est une période qui peut être difficile. Oh, Émile, tu m'entends? L'adolescence, c'est... on passe de l'enfant à l'adulte. Et il y a une période qui est difficile. Pourquoi? Parce que notre corps change, se transforme, mais pas seulement notre corps, mais aussi dans notre tête. Et on ne voit plus les choses comme les parents. Et on ne se sent pas très bien. Et en fin de compte. Et pourquoi la drogue touche tellement d'adolescents? C'est parce que, comme ils ne se sentent pas bien, on leur propose des produits. Et eux, ils disent, tiens, je vais essayer ça. Pour qu'ils se sentent mieux. Souvent, c'est parce qu'ils veulent mieux se sentir. Des fois, c'est simplement parce qu'ils veulent essayer, quoi. Mais moi, je vous dis, tournez le dos de ces choses-là. Tournez le dos. Refusez ces choses-là. Parce que votre cerveau, vous allez traverser. Même si vous n'êtes pas bien, ne vous en faites pas. vous allez arriver à traverser cette période et vous allez devenir un jour un homme et une femme et vous serez adulte et vous pourrez vous tenir sur vos pieds, avoir un job et aimer et avoir une famille, et etc., etc. C'est dans cette période que vous êtes très vulnérable. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on est adolescent, on ne se sent pas bien. On pense que personne ne nous aime. On pense qu'on n'est pas assez beau, on n'est pas assez intelligent, on n'est pas assez grand, on est trop gros, on est trop petit, on est trop maigre, on n'est pas bien. Et donc, pour qu'on aille mieux, souvent, on va chercher, essayer un produit. Moi, je vous dis, n'essayez pas, parce que c'est trop dangereux. OK ? Donc, je vais juste... mais là, ça va aller... bon, ça va aller trop vite. Et peut-être je vais même... on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, parce que ça va aller trop loin. Je vous ai expliqué tout ça. Et on va s'arrêter là. Est-ce que quelqu'un peut éteindre le... éteindre la vidéo... ouais, les vidéoprojecteurs. Hein? Voilà. Non, c'est bon. J'ai pas fini. Alors, maintenant, ce que je voudrais vous poser la question, c'est qu'est-ce qui vous a le plus touché? Qu'est-ce que vous retenez de cette heure qu'on vient de passer ensemble? Vas-y. Hein, tout, c'est-à-dire. Émile. Ouais, tout à fait, mais c'est ça. Et même la difficulté, quoi. Même quand il y a de la difficulté, traverser la difficulté, les parents sont là, même si on croit que nos parents ne sont pas toujours pour nous. Ils vous aiment, même s'ils ne vous le disent pas comme ils devraient le dire, même s'ils ne vous accompagnent pas comme vous voudriez qu'ils vous accompagnent. La famille, elle est là pour vous accompagner dans ces temps difficiles. Mais c'est vrai, je prends le vrai au lieu de ce qui est temporaire et ce qui peut être très dangereux. Quelqu'un d'autre ? Vas-y. Le piège est trop fort. Et le morceau de fromage n'en vaut pas la peine. Mais nous, on croit que le morceau de fromage, ça, c'est la vie. Ça, c'est pas la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, c'est pas le morceau de fromage, c'est peut-être autre chose, quoi. Quelqu'un d'autre? Vas-y, Sarah. Mais bien sûr, c'est quoi pour vous une épreuve? Les gars, c'est quoi pour vous une épreuve? Ah là, c'est ça. Oui. Une épreuve, ça nous rend malheureux, mais quand on sait qu'une épreuve, ça va nous faire grandir, t'as tout compris. Et souvent, on comprend à travers les épreuves. OK ? Jeannette. C'est Jeannette ? Non. Jeanne. Oh, Jeannette, ça va aussi. Hein. Ah oui. Oui. OK. Et les filles, là ? Les filles. T'es la sœur d'Émile? Oh là là, ma pauvre. Mais t'as raison. OK. Quelqu'un veut dire quelque chose? Étienne, tu dis quoi, toi? OK. OK. Si vous avez compris ça, pour moi, je suis content. J'ai gagné ma soirée. Si vous partez en disant, OK, Dieu m'a donné un cerveau et je vais en prendre soin et je vais faire vraiment gaffe. OK. Laissez-moi lire maintenant une histoire et on termine avec ça. Je vous lis une histoire. Si je la trouve. OK, vous êtes prêts? Je m'appelle Kevin, j'ai 23 ans. Je suis marié, séparé et père d'un petit garçon de 15 mois. Je viens de me réveiller d'un long rêve, ou plutôt d'un cauchemar, en partie lié à ma consommation de cannabis. Il y a encore 6 mois, je sortais tout juste le dernier de mes 3 séjours en hôpital psychiatrique parce que j'avais pété un plomb. Vous comprenez l'expression ? Depuis, j'ai complètement arrêté de fumer du shit. Aujourd'hui, je me reconstruis tout doucement sur tous les plans. Boulot, finances, morale, après avoir quasiment tout perdu. En temps normal, le cerveau sert à régler tous les problèmes qu'on rencontre. Pendant longtemps, mon cerveau n'a plus joué ce rôle à cause de la fumette. Tout a commencé en 3e. À l'arrivée du bus, de l'autobus, devant le collège, j'ai vu quelqu'un qui fumait un joint. Alors je lui ai demandé si je pouvais tirer une taf pour voir ce que ça faisait. J'ai pas été déçu. Ça a été très puissant. J'ai fait un vol plané dans l'autobus. Après ça, ça s'est enchaîné très vite. Avec les autres fumeurs au lycée, on sortait fumer un joint dès qu'on avait une pause, quasiment tous les jours. Tous les jours, entre midi et 2. Puis, après, il y a eu le joint du soir à la maison. En moins d'un an, c'est devenu mon seul passe-temps. Au début, j'avais des moments de lucidité et des moments où je planais. Rapidement, je n'ai fait plus que planer. Il fallait absolument que j'aie l'air normal pour pas que mes parents me captent, c'est-à-dire m'attrapent. Quand mes parents ont découvert que je fumais, ils sont passés par tous les états. Peur, remise en question, engueulade, méfiance permanente. La drogue et moi sommes devenus le principal sujet de conversation. Ils me faisaient la morale et moi, je me justifiais. À la maison, l'ambiance est devenue super glauque. Maman est tombée en dépression. Heureusement, papa est resté solide. J'ai continué à fumer tous les jours et je suis passé du joint au bang parce que ça me fracassait plus la tête. Je me suis marié, j'ai eu un petit bébé. Je suis devenu de moins en moins lucide. Je fonçais tête baissée sans prendre le temps de peser le pour ou le contre. À chaque fois que je trouvais un boulot, j'arrivais à me contrôler un moment, puis après je partais de nouveau en live. Je me faisais virer à chaque fois et c'était jamais de ma faute. À la fin, j'étais devenu grave, je me prenais la tête avec tout le monde. J'étais hyper émotif et je n'arrivais plus à prendre de la distance. Il a fallu que je touche le fond pour ressortir la tête de l'eau. J'ai d'abord perdu la raison, puis mon dernier job, puis ma femme est partie, je me suis retrouvé tout seul. J'ai compris que les seules personnes qui me laisseraient jamais tomber, quel que soit mon état, c'était ma famille. Mes parents et mes frères, eux, ont eux aussi compris plein de choses, notamment qu'ils devaient être patients envers moi et rester vigilants, parce que quand on arrête, les émotions vont dans tous les sens et on a besoin d'être protégé contre soi-même. On a aussi besoin d'être encouragé et de sentir que notre famille croit en nous. Mon fils, je lui raconterai mon expérience, je lui ai donné la vie, je dois le protéger au début et puis devenir un guide pour qu'il apprenne à être heureux. Je n'ai aucune garantie qu'il n'essaiera pas, mais j'essaierai de lui faire comprendre. Et je ferai super gaffe aux gens avec qui il traîne. OK ? On va prendre une pause, 5 minutes. D'accord ? Et on revient ici et on va faire notre deuxième partie. Ça va ? OK. Il faut la prendre et il faut boire là-bas. Ah oui ? Ça t'a plu ?
Oui.
OK. Voilà, on va... Voilà, si vous voulez bien, on va s'asseoir et puis on va... Il faut manger à l'extérieur. Tu fais tes devoirs ? Ok, on va voir ça. Voilà, vous pouvez vous asseoir et j'ai besoin de votre attention. Voilà, je vais vous donner un outil. Quelqu'un, par exemple, vient vous voir et il vous demande de faire quelque chose qui n'est pas terrible. Donc lui, il veut vous entraîner. C'est donc lui le leader, n'est-ce pas? Puisqu'il veut vous entraîner. Il dit, viens, on va aller faire quelque chose, n'importe lequel. Après, je vais vous donner des idées. Bon. Et lui, il veut vous entraîner. Vous, moi, ce que je vous demande, c'est de dire non. Mais pas juste, oh ben non. Non, c'est non. Comment tu peux me demander quelque chose comme ça? Moi, je suis ton ami, tu me demandes de faire quelque chose comme ça. Moi, je vous demande maintenant, pendant le sketch, de vous mettre en colère. De vous mettre en colère. Non, non, tu n'as pas besoin d'une réaction à le taper. Mais que vous puissiez être en colère, qu'on puisse vous demander quelque chose de si grave, quoi. Donc, la première chose, c'est non, je ne le ferai pas. La deuxième chose, c'est vous allez être obligé, je vais vous demander, de lui proposer une alternative. C'est-à-dire, vous ne voulez pas faire ce qu'il vous demande, mais vous lui proposez autre chose à faire. Est-ce que vous me suivez là? Ça, c'est difficile à faire. Parce qu'il faut réfléchir rapidement. C'est difficile. Donc, la première chose à faire, c'est dire non. Mais dire non vraiment fort. Et vous allez voir que le gars, il ne s'y attend pas. Ou la fille, elle ne s'y attend pas que vous dites non. Parce que normalement, tout le monde va le faire. Tout le monde a envie de faire. Eh bien, pas vous. Ben non. Soyez différents. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, non. Et puis, la deuxième chose, c'est proposer une alternative. C'est-à-dire, non. J'irai pas avec toi, mais si tu veux, viens, on va aller. Je te propose de faire quelque chose. On va aller voir boire un coca, on va aller voir un film, ou bien on va. Voilà. Et maintenant, si lui ne veut pas venir avec vous, vous partez. OK? Vous lui dites, tu viens ou tu viens pas? Et lui, vous allez voir, il va être indécis. OK. Ok, tu décides, moi je pars. Vous partez et vous ne vous retournez pas. C'est-à-dire que c'est votre décision. Et vous le plantez là. Vous le plantez là. Donc lui, c'était d'abord le leader. Il voulait vous entraîner. Quand vous avez dit non, vous êtes devenu, vous, le leader. Et lui, il est devenu le suiveur. Et maintenant que vous êtes déterminé à faire ce que vous vouliez faire, il se retrouve comment? Comme un idiot. OK? Et je vais vous dire, ça, c'est quelque chose qui peut vous sauver la vie plusieurs fois. Alors, est-ce que vous avez tous compris? Il y a des questions? Il n'y a pas de questions? On va faire ça. Je vais, moi, choisir... Allez, les... vous de vous venez là. Ok. Voilà. Toi, tu t'assieds là. Et viens voir. Il faut que je coupe là, moi, parce que sinon il va tout entendre.